Jeanne Borzacian, une femme d'exception, aujourd'hui, quatrième épisode, après la guerre. À la Libération, Jeannette dépose les armes, mais continue le combat. Elle entre au CADI, Centre d'action et de défense des immigrés. C'est un organisme mis en place par le Parti communiste pendant le Front populaire et réactivé à la Libération. S'y regroupent les associations de résistants étrangers proches du Parti communiste. Son objectif, faire reconnaître et avancer les droits des étrangers en France.
J'étais assistante sociale. Les étrangers qui avaient été pendant la guerre, dans la résistance, tout ça, ils avaient des difficultés pour avoir des papiers français.
C'est Jeannette qui présente à la préfecture les demandes de naturalisation.
J'étais bien connue à la préfecture. Quand je disais « celui-là, vous pouvez lui donner la carte », vous en faites pas, il avait la carte.
Et donc vous les choisissiez comment? Vous m'avez dit que vous choisissiez les dossiers.
Eh bien, l'honnêteté. Ce n'étaient pas des trafiquants. Mais je faisais attention.
Que ce soit pour la corrompre ou pour la remercier, on propose souvent à Jeannette des cadeaux.
Souvent, les gens que je convoyais, en somme, ils voulaient me remercier. Alors, on me proposait des bas de soie, des oranges, un tas de choses.
Mais fidèle aux enseignements de son père, Jeannette refuse tout. Et c'est pour elle un titre de fierté.
Ils ont appelé, le chef de la préfecture a appelé un jour mon chef, et puis il lui a dit: Mademoiselle Sivier, elle est incorruptible.
À deux reprises, pourtant, elle manque de céder. La première fois, alors qu'un de ses responsables, Édouard, est à l'hôpital gravement malade, on lui propose des oranges.
Tout le temps, on venait me proposer des oranges, un tas de trucs. Là, ce type-là, il avait beaucoup d'oranges. C'était un marchand d'agrumes. Alors, je suis allée chez ma chef. J'ai laissé mon client une minute, j'ai dit, vous m'excusez, on m'appelle. Et puis, j'ai dit, écoute, il y a un type là, il me propose une orange, des oranges. Mais Édouard, il est malade. Tu veux pas que je prenne une orange? Elle m'a dit, pas du tout. Tu prends rien. On n'a pas le droit.
La deuxième fois, c'est pour une collègue.
Alors là, c'était une copine qui venait travailler. Il y a longtemps qu'elle travaillait avec les chaussures en dessous. Il n'y avait plus de semelles. Alors, elle avait bourré ça de papier et elle marchait sur le papier. Alors, et moi, on me proposait tout le temps. On me disait, mais on ne vous propose pas d'argent. On vous donne un bon pour acheter. Vous le payerez, ces chaussures.
Et donc, vous ne l'avez pas
fait. C'est-à-dire que je voulais, parce que ma copine, elle venait travailler sans chaussures. Alors, je suis allée trouver ma chef. Elle m'a dit, Madeleine, non. Non, jamais. Bon, pas de plus. Elle venait travailler sans chaussures.
Jeannette quitte le CADI en septembre 1947 pour travailler comme gérante non rémunérée dans le modeste atelier de fabrication de jupes de son mari, André Borzacian. Josette, sa fille, naît quelque temps plus tard, en 1949. Mais à la fin des années 50, face au peu de profits générés par l'entreprise familiale, Jeannette revient à ses premières amours, la vente. Elle travaillera alors, jusqu'à sa retraite en 1978, pour différents patrons, comme démonstratrice aux Galeries Lafayette.
Vous vous y trouviez bien aux Galeries Lafayette? Vous aimiez ce travail-là? Vous aimiez ce travail?
J'aimais. Ah bah oui, j'étais vendeuse. J'ai toujours été vendeuse. J'avais une bonne clientèle. Parce que quand une cliente venait me chercher un vêtement et qui ne lui allait pas, je lui disais, madame, il vous plaît, mais c'est votre corps qui ne lui plaît pas. Il ne faut pas le prendre. Il est très beau, le vêtement est beau, mais ce n'est pas pour vous. J'ai des choses plus jolies et moins chères même.
Et elle prenait son boulot à cœur, parce que combien de fois? Parce que évidemment, elle ne faisait pas les lettres, elle les faisait faire par sa fille, ses sœurs. Et combien de fois elle nous a fait faire des lettres parce qu'elle réclamait pour avoir un meilleur réassort. Parce qu'elle disait, je ne peux pas travailler avec la marchandise que vous me donnez.
Et donc, vous faisiez-vous les clients qui se plaignent ?
Ah non, non, non ! Elle nous dictait et la lettre, elle l'envoyait à son patron.
Ouais.
Elle n'a jamais été pour l'écriture, maman. La lecture, oui, elle aimait bien lire. Ça la prive de ne pas pouvoir lire. Mais écrire, ce n'était pas son truc. Alors, dicter, oui. Alors, nous, on disait, stop, hein, moi, je ne prends pas la sténo. Mais même sa sœur qui prenait la sténo, elle suivait son idée. Alors, elle s'envolait et nous, on avait du mal hein, derrière.
Un souvenir brûle les lèvres de Jeanne.
Il y avait une fille qui venait travailler le lundi. Elle avait 2 ou 3 jours qu'elle venait. Ça lui permettait de vivre. Et puis, il y avait une chef là-dedans qui l'embêtait. D'abord, elle l'embêtait parce qu'elle était juive. Et puis, cette chef, c'était la chef de rayon. Elle n'arrêtait pas de l'embêter. Pour des bêtises, hein. Un jour, j'en ai eu marre. Elle me fait suer, cette bonne femme. Alors, un jour, j'étais en colère moi-même. J'ai dit, attends, je vais t'avoir, toi. Et puis, j'ai arrêté mon chef de galerie, qui passait dans les rayons. Et j'ai dit, je voudrais bien vous parler. Il me dit, vous voulez parler? Vous venez au bureau. Alors, j'y suis allée. J'ai dit, écoutez, votre chef, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait d'ailleurs, elle n'arrête pas d'embêter madame une telle. D'abord parce qu'elle est juive. Elle n'aime pas les juifs. Et puis ensuite pour son travail. Alors je viens vous prévenir parce que j'en ai par-dessus la tête. Je suis partie. Eh bien, la chef, elle est devenue volante. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus le rayon. Elle remplaçait les chefs de rayon qui étaient en congé. Alors un jour elle était là, un jour elle était là, elle était là. Elle n'a jamais su d'où ça venait. J'ai dit, j'en ai marre. Hein. Elle est de chef, elle est descendue.
Voilà, ça vous fait bien plaisir.
Ah ouais, bah, j'étais contente, moi. J'étais contente. Une injustice, moi, je ne l'admettais pas.
Jeannette poursuit, bien sûr, une activité militante aux Galeries Lafayette, pour l'augmentation des salaires, pour la réduction du temps de travail, pour la justice sociale en somme. Mais après plusieurs heures d'interview, Jeanne commence à fatiguer et la mémoire lui fait défaut.
Quand je vois maintenant les ouvertures des magasins le dimanche, je pense à vous, je pense sans arrêt à leur combat, parce qu'elles se battaient pour finir une demi-heure plus tôt le soir, admettons, pour fermer. Et maintenant, c'est le dimanche qu'on les fait travailler. Mmh. Et ils se sont battus, eux, pour des horaires.
Bah oui.
Et qu'est-ce que vous pensez, justement, de ce qui se passe politiquement aujourd'hui en France ?
Ben, je pense, d'abord, c'est l'argent qui manque à l'ouvrier. Alors, il ne peut pas se mettre en grève quand il veut. C'est un malheur, mais c'est comme ça. Écoute.
Ouais, donc vous pensez qu'il y a eu une régression depuis l'époque où vous étiez syndicaliste ?
Ah oui. Moins de combativité. Ouais.
Et pareil, vu que vous avez travaillé comme assistante sociale pour donner des papiers aux étrangers,
oui.
Est-ce que vous vous intéressez un petit peu à la politique par rapport à l'immigration qui est menée par la France ?
Bah, à l'époque, je m'y intéressais beaucoup, parce que je travaillais surtout beaucoup avec des étrangers. Mais maintenant, je ne suis plus dans la course. Hein. Je ne pourrais plus d'ailleurs. Ma santé, je ne ferais pas le quart.
Arrivée au terme de l'enregistrement, c'est à Josette, la fille de Jeanne, que je pense. C'est elle qui a mené toutes les recherches en archives pour reconstituer l'histoire de sa mère. C'est elle qui, depuis plusieurs années maintenant, œuvre à la transmission de cette mémoire. Et c'est encore elle qui, au quotidien, veille au bien-être de sa mère. C'est donc à elle que s'adresse ma dernière question.
Alors moi, j'ai une question pour vous. Comment on se construit à côté ou avec une maman donc comme Jeanne, qui a quand même une mémoire qui est très très forte. Comment on se retrouve dépositaire d'une mémoire comme ça, et est-ce que c'est pas un peu lourd?
Alors il y a un autre aspect aussi, c'est que comment on se construit, si je pars là-dessus, donc pas du tout sur la mémoire. On se construit difficilement parce que au départ, parce qu'on a quelqu'un qui est tellement fort à côté de soi, et moi j'étais tellement inhibée petite que c'était timide, d'une timidité mais maladive.
Voilà. Ah, t'es très timide.
J'étais excessivement timide.
Terrible.
Bon, j'ai guéri un peu au fil des années, mais ça m'a été très difficile et très long. J'étais incapable de prendre la parole en public. Au départ, maman aplanissant toutes les difficultés devant moi, je faisais pas de démarche, je faisais rien, quoi. Finalement, bon, je pense que le travail, ça permet un petit peu d'en sortir, de donner un peu confiance en soi, un peu. Et puis après, voilà, la vie s'est passée, j'ai fait un peu des voyages et puis petit à petit, je me suis mise à monter au créneau. D'abord, pas trop, non, pour les témoignages, tout ça. Pas du tout. Elle le faisait, tellement bien qu'elle n'avait pas besoin de moi. Par contre, j'ai commencé à devenir un peu quand même plus défensive dans la vie. Elle a fini quand même par déteindre sur moi, sur ce plan-là. Et puis, depuis qu'on nous demande d'aller témoigner, donc ça doit faire 4-5 ans. Et voilà, j'ai été amenée à prendre la parole à sa place, petit à petit. J'ai toujours su, j'ai l'impression, c'est idiot de dire ça, à 4 ans, je devais passer par grand-chose, mais pour moi, j'ai l'impression d'avoir toujours su le passé de mes deux parents.
L'entretien se termine sur une longue évocation d'André Borzakian, père de Josette, mari de Jeanne, et rescapé très jeune du génocide arménien. Nous rendons ici hommage à sa mémoire. Nous remercions enfin vivement Jeanne et Josette et leur laissons le dernier mot.
J'étais toujours une battante.
Une battante, oui.